Unitaire, au cœur de l'action des défenseurs de l'environnement. Une émission de Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour. Dans cet épisode, nous aborderons le comportement des entreprises, des multinationales et plus largement du secteur privé vis-à-vis des défenseurs de l'environnement. Nous évoquerons aussi les attentes qui leur sont adressées et les obligations qui leur sont faites. Si certaines entreprises se montrent très soucieuses de leur impact sur l'environnement, d'autres tolèrent mal, voire très mal, que des militants pointent leurs responsabilités dans le changement climatique, dans la pollution ou encore dans l'effondrement de la biodiversité. Les entreprises peuvent être des acteurs clés du changement. Certaines ont intégré l'importance de la transition climatique et de minimiser leur impact sur l'environnement. Quand d'autres en ont fait un argument commercial sans que cela recouvre la moindre réalité. Cette attention de façade, perçue comme cynique, est dénoncée sous le vocable de greenwashing. Face aux pollutions, aux comportements écocidaires, les défenseurs de l'environnement n'hésitent pas à documenter et révéler les stratégies de contournement de grands groupes privés pour échapper à la réglementation, pour la modifier à leur profit ou encore pour polluer davantage. Ils documentent les violations des droits humains, des populations déplacées et privées de leurs terres ou dont les ressources ont été polluées. Face à l'impact immense du secteur privé sur l'environnement et le climat, les enceintes multilatérales ont défini des principes directeurs qui révèlent de ce qu'on appelle schématiquement le droit mou. Nombreux sont ceux qui appellent à une responsabilisation accrue des entreprises par la définition d'obligations contraignantes et la mise en place de mécanismes de réparation effectifs. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Katia Martin-Chenu. Katia, bonjour.
Bonjour Magali.
Katia Martin-Chenu est directrice de recherche au CNRS, affectée à l'Institut de sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. C'est surtout une spécialiste de la thématique de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors Katia, déjà, pour planter le décor, quels sont les types de menaces auxquelles les défenseurs de l'environnement sont confrontés de la part du secteur privé ?
Les actions des défenseurs de l'environnement sont souvent en nette contradiction avec les intérêts privés, dans les cadres, par exemple, des projets de développement, y compris ceux qui concernent la transition énergétique et qui montrent la face cachée des énergies vertes pour reprendre les travaux de Guillaume Pitron sur les métaux rares et les documentaires qui en est issu. D'où les attaques en vue de les neutraliser. Les centres des ressources sur les entreprises et les droits de l'homme établissent un recensement. Sa base de données comptabilise depuis 2015 des milliers d'attaques ou représailles qui peuvent prendre des formes diverses. Meurtres, menaces de mort, d'intimidation. La majorité concernant les défenseurs des droits fonciers et environnementaux. Et les derniers rapports de l'ONG Global Witness fait état d'au moins 177 défenseurs de la Terre et de l'environnement tués dans le monde en 2022.
C'est-à-dire un tous les deux jours.
Et l'Amérique latine est la région la plus touchée et plus d'un tiers des meurtres concernent les peuples autochtones, Colombie, Brésil, Mexique, Honduras ou Pérou. Donc des exactions sont commises dans l'objectif de déplacer les populations, des communautés qui gênent le développement des projets extractifs. Par exemple, un documentaire remarquable, L'illusion de l'abondance, qui a fait l'objet d'une projection à l'Assemblée nationale en avril 2023, retrace les parcours des trois femmes défenseurs, symboles de la lutte contre l'impunité des entreprises multinationales à l'origine des violations des droits humains, dont le droit à un environnement sain, au Pérou, au Honduras et au Brésil. Pour ces derniers pays, le rôle joué par les défenseurs dans la quête des réparations à la suite des ruptures des barrages de Mariana et Brumadinho à Minas Gerais est mis en exergue. Aux diverses formes de représailles constatées, il faut aussi ajouter des stratégies plus sournoises, des stratégies de division des communautés et création de conflits internes au sein même des communautés grâce à un jeu d'indemnisation variable pour s'accaparer des terres nécessaires au développement des projets comme par exemple le projet d'immenses parcs éoliens au Mexique pour la production d'énergie dite propre. Propre, certes, mais pas certainement équitable. Les villageois subissent les externalités négatives de l'activité économique sans en bénéficier de l'énergie produite, des contrats de location des terres pour des décennies par des communautés mal informées ou plutôt contre de fausses promesses. Chaque éolienne, c'est des tonnes de ciment injectées dans la terre qui drainent moins bien, ce qui entraîne des inondations, des récoltes noyées, sans dédommagement. Des communautés sont souvent prises entre des géants économiques, d'une part, et leur propre gouvernement, d'autre part, qui soutiennent ces projets d'investissement étrangers.
Alors face à ces difficultés, donc celles qui sont très évidentes et puis celles qui sont plus sournoises que tu as mentionnées, quelles sont les obligations qui sont faites aux entreprises vis-à-vis des défenseurs de l'environnement ?
Les entreprises, comme tout individu et organe de la société, pour reprendre le préambule de la déclaration de 1948, doivent respecter les droits fondamentaux. Les droits nationaux qui dérivent du droit international des droits de l'homme interdisent par exemple les meurtres, y compris les menaces, les enlèvements, la torture, les traitements inhumains et dégradants auxquels les défenseurs des droits sont souvent soumis dans certaines régions du monde. Mais au-delà de ces interdictions, je dirais classiques, qui touchent et les individus et les entreprises, des textes spécifiques aux entreprises ont vu le jour et même proliféré depuis les années 2000 avec ce que l'on peut appeler le mouvement Business and Human Rights, entreprises et droits humains. La responsabilité des entreprises en matière des respect des droits humains est de plus en plus réclamée. Et comment l'expliquer ? Diverses raisons peuvent être avancées, mais la première relève du constat des nombreuses violations des droits humains dans les cadres des activités des entreprises et du drame de Bhopal en Inde en 1984 à celui du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, trois décennies se sont écoulées et la liste des catastrophes humaines et écologiques n'a pas cessé de s'allonger.
Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que cet effondrement du Rana Plaza et le traumatisme qui en est résulté et surtout ce que ça a eu comme impact sur la communauté internationale ?
Cette tragédie qui a eu lieu au Bangladesh a mis en lumière les vicissitudes des chaînes des valeurs mondiales marquées par une quête de production à moindre coût dans une économie de marché financiarisée. Et les bâtiments s'est écroulé, il y a eu plus de 1000 morts et des centaines de blessés. Et dans les décombres, des marques
très célèbres,
exactement, voisinaient les corps des
personnes. Quand on parle des obligations, on voit qu'il y a eu un mouvement impulsé autour du concept de soft law, c'est-à-dire des règles qui sont posées comme étant des principes moraux, comme étant une incitation du secteur du business. Et puis on voit émerger une exigence de plus en plus forte autour de ce qu'on pourrait appeler un modèle de hard law, c'est-à-dire avoir des obligations contraignantes. Comment tu vois cette évolution ?
C'est un mouvement flagrant. Et notamment depuis les années 2010. La thématique entreprise et droits humains s'est développée au sein des Nations Unies dès les années 70, une flagrante montée en puissance de cette thématique a pu être observée à partir du 21e siècle, non seulement aux Nations Unies, mais également au sein d'autres espaces normatifs internationaux, OIT, OCDE, Société financière internationale de la Banque mondiale, et aussi au niveau régional, Union européenne, nous pouvons en parler. Les principes directeurs onusiens adoptés en 2011 prévoient des responsabilités différenciées mais complémentaires des États et des entreprises selon un triptyque. L'obligation pour les États d'assurer une protection contre les violations des droits humains par les tierces parties, y compris les entreprises. La responsabilité des entreprises de respecter les droits humains et la nécessité d'offrir des voies de recours effectives aux victimes. Chacun de ces piliers est considéré comme une composante essentielle d'un système interdépendant et dynamique des mesures de prévention et de réparation. La notion de due diligence est au cœur de ces systèmes de responsabilité. Les entreprises doivent tout d'abord s'abstenir de porter atteinte aux droits humains, obligation négative. Mais de cette obligation négative découlent des obligations positives, notamment celle de due diligence, identifier, prévenir, atténuer les impacts négatifs de leurs activités qui peuvent constituer des violations des droits humains, y compris celles liées aux atteintes à l'environnement. Si traditionnellement la diligence est employée dans la gouvernance d'entreprise pour déterminer les risques entrepreneuriaux, elle est devenue, avec les principes RGGI, un standard pour mesurer les respects d'obligations internationales et est sortie du contexte des gestions des risques internes à l'entreprise pour s'intéresser aux risques que l'entreprise engendre pour les tiers avec l'exercice de son activité. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis l'adoption de ces principes onusiens, un texte de soft law, il y a eu une irradiation ces principes et notamment de cette notion de due diligence au sein des différents espaces normatifs qui ont intégré cette notion, mais dans des textes de hard law. La France l'a fait.
En 2017.
Exactement, avec l'adoption de sa loi sur les devoirs de vigilance. Et aujourd'hui, nous assistons au même mouvement aussi au niveau européen.
Au niveau de l'Union européenne, très bien. Alors, quelles sont les voies de recours offertes aux défenseurs quand les entreprises, ou plus largement quand le secteur privé, violent leurs droits ?
Les voies de recours sont diverses au niveau national et international, mais les obstacles à les mettre en œuvre, effectivement, sont également divers. Ces voies de recours, elles varient selon les faits reprochés et les contextes dans lesquels ils s'inscrivent et peuvent être tant juridictionnels que non juridictionnels. Au niveau international, les comités onusiens peuvent être saisis, mais également les rapporteurs spéciaux. Les victimes peuvent s'adresser aux rapporteurs qui peuvent alerter sur un cas, par exemple en adressant des lettres d'allégation, non seulement aux États, mais aussi aux entreprises.
Alors effectivement, ces lettres d'allégation sont une méthode efficace qui a une valeur d'abord symbolique, mais une valeur aussi d'efficacité immédiate. La valeur symbolique, c'est de montrer effectivement que les entreprises ne restent pas insensibles à la stigmatisation qui est faite par les Nations Unies d'une contravention claire à une obligation internationale. Et c'est ce principe qu'on essaie, avec les rapporteurs spéciaux, de mettre en œuvre, c'est-à-dire de nommer le nom de l'entreprise dans un rapport des Nations Unies, avec l'idée que le fait de le nommer dans un rapport va avoir un impact sur la communication de l'entreprise. Et de mon expérience d'un autre mandat, j'ai pu voir plusieurs entreprises décider d'arrêter un projet ou de le modifier simplement parce que les actionnaires ou les fonds d'investissement avaient décidé de retirer le financement si l'entreprise ne modifiait pas ses règles de conduite. Et puis un exemple tout à fait récent que j'ai même expérimenté il y a moins d'un mois, d'une entreprise suisse, Solvay, qui menaçait de procès Bayon, donc de slap un journaliste guatémaltèque, Carlos Schock. Et à l'issue de l'échange de lettres que j'ai eu avec l'entreprise, l'entreprise m'a envoyé une réponse en me disant qu'elle avait décidé d'interrompre les charges contre le journaliste. Donc un effet immédiat, mais qui a une valeur symbolique parce que dans la presse suisse, ça a eu un grand impact et d'autres entreprises sont venues vers nous en disant « mais on aimerait comprendre ce mécanisme par lequel vous intervenez ».
Et puis parfois, les défenseurs peuvent être très audacieux et très inventifs. Il y a aussi la façon d'agir des investisseurs actionnaires. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Katia ?
Oui. Les défenseurs, comme tu as dit en introduction à cet entretien, ils documentent les stratégies des contournements de la réglementation des grands groupes. Or, les défenseurs utilisent aussi des stratégies diverses, non seulement pour avoir accès aux informations, ce qui est essentiel, mais aussi pour peser sur les stratégies des entreprises. Un exemple emblématique est celui des investisseurs, donc actionnaires, qui infiltrent les AG des multinationales. Dans les cas des catastrophes de Mariana et Brumadinho au Brésil, des défenseurs ayant participé aux AG de la société Vale do Rio Doce accédaient progressivement aux informations, prenaient connaissance des risques après la rupture
du barrage.
Du barrage de Mariana, les risques d'une rupture à Brumadinho, ce qui facilite ensuite l'ouverture de différents fronts contentieux au Brésil, au Royaume-Uni et en Allemagne pour engager les responsabilités des différentes entreprises impliquées. Très récemment, nous avons assisté à l'action d'une trentaine d'investisseurs d'un géant pétrolier anglo-néerlandais qui, poussé par une organisation d'actionnaires activistes, Follow This, présente une résolution climatique lors d'une AG comme manière de faire pression sur l'entreprise pour des meilleurs objectifs climatiques.
Et donc pour changer la ligne de la stratégie de l'entreprise.
Exactement. Et en contrepartie, un autre géant pétrolier, cette fois-ci nord-américain, a porté plainte en janvier dernier devant un tribunal du Texas contre des investisseurs activistes pour bloquer la présentation du vote de leur pétition sur les climats lors d'une AG qui se tiendra au mois de mai. Ce groupe affirme que les investisseurs sont motivés par un programme extrême. Ils souhaitent que les groupes fixent des objectifs dits de scope 3. Et que l'adoption de tels objectifs plus stricts serait préjudiciable à ses activités et à la valeur de ses actions.
Et alors, quelles sont les autres voies de recours qui sont envisageables, notamment dans d'autres continents ?
J'ai évoqué les comités onusiens, mais il y a aussi les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Nous voyons aussi quelques évolutions. Par exemple, la Cour africaine des droits de l'homme, dans une récente décision, l'affaire Trafigura, en septembre 2023, c'est l'affaire du probo koala, navire qui a déversé des déchets toxiques à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui est emblématique des dommages humains et environnementaux, conséquence de l'action d'une entreprise, de plusieurs entreprises d'ailleurs, mais aussi de l'inaction de l'État, donc un manque de diligence de l'entreprise et de l'État. Divers fronts judiciaires ont été ouverts dans différents pays en essayant de responsabiliser les auteurs. Et une décision de septembre 2023 de la Cour africaine des droits de l'homme condamne la Côte d'Ivoire à établir un fonds d'indemnisation en consultation avec les victimes qui sera alimenté par des sommes reçues de Trafigura, mais aussi à légiférer pour prévoir la responsabilité des personnes morales et aussi des réformes législatives et réglementaires visant à mettre en œuvre l'interdiction de l'importation et du déversement des déchets dangereux sur les territoires.
Donc on est sur le volet indemnisation, mais aussi prévention à l'avenir du risque de dommages écocidaires.
C'est un État qui est condamné, mais grâce aux obligations positives qui lui sont imposées, elles retombent ensuite sur les entreprises.
Très bien.
Et au niveau national, les juridictions nationales peuvent être saisies tant au civil qu'au pénal, ou encore des organes non juridictionnels comme les points de contact nationaux de l'OCDE en vue d'une médiation. Par exemple, dans l'affaire des éoliennes au Mexique, divers fronts ont été ouverts. Saisine des tribunaux locaux au Mexique, saisine du PCN, d'ailleurs, en juillet 2019, l'ONG plaignante s'est retirée de la procédure pour critiquer l'inefficacité et l'incompatibilité alléguée de la consultation des populations autochtones réalisée avec l'exercice de leur droit au consentement libre, informé et préalable, selon la Convention 169 de l'OIT. Et ces mêmes représentants ont par ailleurs saisi un tribunal en France sur le fondement de la loi sur les devoirs de vigilance, action qui a été déclarée irrécevable pour des raisons procédurales. Mais les plaignants ont fait appel et nous avons la semaine dernière, le 5 mars, une audience dans une chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris créée justement pour juger ces contentieux émergents.
Quelles sont les avancées récentes en matière de droit international des droits de l'homme relatif à la protection des défenseurs contre les entreprises ?
Je constate plusieurs. Dans les cadres du groupe de travail des Nations Unies mis en place pour le suivi de l'application des principes onusiens de 2011, le groupe de travail s'est saisi de cette question et a adopté de rapport sur les défenseurs de droit. J'ai évoqué les mandats des rapporteurs spéciaux. Il faut aussi évoquer les évolutions en matière de protection des lanceurs d'alerte. Même s'il s'agit d'un régime à part, il se chevauche avec celui des défenseurs des droits humains et de l'environnement. Et depuis la directive de 2019, en la matière, il y a eu une évolution importante. La prise en compte des représailles contre les défenseurs dans la mise à jour ciblée des principes directeurs de l'OCDE en juin 2023 est un autre exemple d'avancée. Mais c'est surtout la directive SLAPP qui est un grand pas est très actuel vers une prise en compte du rôle particulier joué par les défenseurs des droits.
Quels sont les objectifs de cette directive ?
Elle vise à garantir aux individus et aux organisations qui travaillent sur les sujets d'intérêt général une protection de la part de l'Union européenne contre des poursuites infondées ou abusives. Et elle introduit deux garanties, un rejet anticipé des demandes infondées et la possibilité d'imposer aux demandeurs de prendre en charge les coûts estimés de la procédure. Si les défendeurs demandent un rejet anticipé, il reviendra aux demandeurs d'apporter des preuves de ce qu'il avance pour la poursuite de la procédure.
Ça permet de revenir sur cette asymétrie induite par la puissance de ces groupes qui s'attaquent à des petites ONG ou à des défenseurs qui sont très peu outillés pour faire face à des longues procédures juridictionnelles.
Et spécifiquement sur les entreprises, un texte incontournable sera la directive européenne sur les devoirs de vigilance en matière de durabilité qui protège les droits humains, l'environnement et les climats. Annoncée en 2020 par les commissaires à la justice Didier Reynders en pleine pandémie qui a mis en exergue les fragilités des chaînes de valeur globales, la proposition de directive publiée en février 2022 par la Commission européenne n'a été approuvée par le COREPER, le comité des représentants permanents, que très récemment, le 15 mars 2024, à la suite des divers reports du vote et un affaiblissement significatif du texte issu de l'accord politique trouvé le 13 décembre 2023. Et cela sous la pression des lobbying. Mais malgré l'affaiblissement du texte en cours de différentes phases des négociations, notamment exclusion du secteur financier, limitation de la chaîne des valeurs en amont, ça veut dire exclusion de l'aval, les rehaussements des seuils relatifs au nombre de salariés et aux chiffres d'affaires, ce qui restreint significativement les champs de l'application de la directive. Ces textes est un pas important en matière de régulation des activités des entreprises, en matière des droits humains et notamment en matière de conduite responsable des entreprises.
Et Michel, comment mesure-t-on ces avancées et qu'est-ce que tu observes, toi, sur le terrain ?
Alors moi, j'observe les mêmes constats que Katia vient de faire, c'est-à-dire des progrès notables qui ont été faits maintenant depuis une vingtaine d'années, sous la pression, on doit dire, de la société civile beaucoup. Beaucoup d'organisations spécialisées sont investies de plus en plus, sont devenues de vrais experts et donc ont pu non seulement faire un travail de plaidoyer, mais également introduire des éléments de langage dans les textes négociés, donc c'est aussi appréciable. Maintenant, pour moi, il reste deux grands éléments. D'abord, le premier, c'est deux directives européennes sur le devoir de vigilance et sur les SLAP, les procès bâillons, doivent être transposées. On a maintenant 2 ans pour les transposer, donc il y a encore un pas à franchir pour qu'elles deviennent opérationnelles. Et là, il faut que, une fois encore, la société civile se mobilise, mais également les institutions nationales des droits de l'homme, comme la CNCDH, pour faire en sorte que l'ambition du texte ne soit pas affaiblie sur le plan national et qu'on garde sur le plan national la même ambition qu'on avait au départ lorsqu'on a créé ces deux textes, qui visent à mieux protéger celles et ceux qui se battent pour faire en sorte que les droits humains soient respectés aussi par les entreprises nationales et transnationales.
Alors Katia, quelles sont les lacunes que tu identifies et que faudrait-il faire pour rendre plus efficaces les dispositifs existants ?
Je pense que une lacune importante est dans l'association des parties prenantes et notamment des défenseurs des droits dans la construction même des plans de vigilance, dans tous ces processus de vigilance que est mise en place au niveau national et maintenant au niveau régional. Nous venons d'évoquer déjà le périmètre fortement rétréci de la future directive sur les devoirs de vigilance en matière de durabilité. Il faudra être très attentif aussi dans un processus parallèle qui est celui d'adoption par l'ONU, par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, d'un instrument contraignant en matière d'entreprise et droits humains. L'intérêt d'adoption d'instruments contraignants par l'ONU et par l'UE serait notamment de renforcer les troisièmes piliers des principes REGI, qui est le plus faible.
Celui sur les voies de recours. Et c'est aussi une manière, finalement, que les espaces normatifs se tirent vers le haut et évitent à chaque fois d'être moins disants.
Exactement. Ces processus normatifs mentionnés au niveau national, régional et mondial sont emblématiques des internormativités qui contribuent à l'esquisse d'un droit commun imprégné d'une culture de responsabilité. Dans son ouvrage de 2013, Résister, responsabiliser, anticiper, Mireille Delmas-Marty concluait le chapitre Responsabiliser les titulaires de pouvoir en insistant sur le rôle moteur des acteurs civiques, ce qui vient de dire Michel, dans le processus des responsabilisations. Or, les internormativités constatées depuis 10 ans confirment l'importance de leur rôle, non seulement dans l'adoption d'instruments normatifs au niveau national, régional et international, notamment à travers un plaidoyer stratégique inlassable, mais également en veillant à leur mise en œuvre effective. Donc, c'est grâce à la résistance, à l'anticipation des défenseurs des droits, dont les contentieux de la prévention fondée sur la loi de 2017 en France est emblématique, qu'un processus réel de responsabilisation des titulaires du pouvoir pourra voir le jour, malgré toutes les ambivalences qui peuvent être constatées. Un tel processus peut transformer petit à petit la chaîne des valeurs en chaîne de responsabilité.
Et toi, Michel, quels sont les moyens que tu identifies pour pouvoir rendre plus efficaces les dispositifs existants ?
Alors d'abord, il faut les tester. Il faut donc se former. Et puis, c'est par le test de différentes procédures qu'on verra leur efficacité et qu'on pourra analyser si oui ou non, on peut aller encore un peu plus loin sur le développement de méthodes de travail permettant de renforcer la protection par les entreprises des défenseurs menacés.
Eh bien, merci beaucoup. Ce que je retiens de cet échange avec Katia Martin-Chenu et avec Michel Force, c'est qu'il y a d'abord une demande citoyenne et une demande de la communauté internationale qui est très forte pour que davantage d'obligations contraignantes soient imposées aux entreprises dans leur rapport avec les défenseurs de l'environnement. On remarque aussi que les défenseurs ne sont pas à court de stratégies innovantes, que ce soit pour pouvoir empêcher les SLAP de leur imposer le silence sur les documents qui veulent rendre public sur les mauvais comportements des entreprises ou encore les stratégies des investisseurs activistes. Et puis, donc, cette mobilisation des espaces régionaux au-delà de l'espace international, avec toujours ce rôle important du juge, est très intéressant. Puisque de là, comme l'a rappelé Katia Martin-Chenu, on voit émerger une sorte de droit commun avec cette internormativité, ce mot un peu complexe et barbare, mais qui montre qu'en fait, grâce au rôle joué par les acteurs civiques, dans le processus de création des normes, mais ensuite à l'aval dans la mobilisation de ces normes, on peut avoir tout un maillage de plus en plus performant qui se met en place pour imposer aux entreprises de mieux se comporter avec les défenseurs et puis surtout voir où sont les trous dans la raquette et très rapidement les combler. En tout cas, la mobilisation est très forte et elle est là.
Et dans un prochain épisode, nous entendrons Françoise Tonnet, qui est magistrate belge, qui nous parlera des juridictions spéciales environnementales.
Cette émission a été préparée et présentée par Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio. Vous pouvez écouter librement toutes nos émissions sur le site d'Amicus Radio et vous abonner à ce podcast sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun épisode.